Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de DevApps, podcast consacré à l'actualité, au développement et à l'architecture des technologies.net. Nous enregistrons cet épisode le lundi 29 mai 2017 et c'est déjà le 33e épisode. Ça va encore une fois à une vitesse, je le dis à chaque fois, mais je suis toujours étonné.
Tu peux le redire, 33 pour voir ?
33. Ouais, okay. Je vais encore le redire, pour ce 33e épisode.
Non, mais il n'y a que les vieux qui comprendront. Enfin, bah, t'as vu Richard qui rigole d'ailleurs.
Attends, ouais, c'est bon. Ouais.
Tu fais référence au film, c'est ça ?
Oui, c'est ça.
Là, t'es vieux aussi, là.
Ouais. Je suis vieux, ouais. Il est 33. Donc, pour ce 33e épisode, je suis accompagné, on l'a entendu, de Christophe et de Richard. Bonjour, Richard. Tu vas bien ?
Ça va bien, oui.
En forme ?
Oui, on peut y aller.
Et toi, Christophe ?
Ça va bien. Une année qui se termine scolaire.
Ah oui, scolaire.
Super bien. Donc, je vais pouvoir bien retravailler, là, du coup. Ça fait du bien. Il s'est passé des choses, a priori, depuis un an, dans le monde des devs.
Hein, ah c'est pas mal. On va en discuter tout de suite.
D'accord.
Donc, messieurs, aujourd'hui, on va passer en revue quelques actualités qui ont été présentées à la Build, la grande messe des développeurs de Microsoft qui a eu lieu à Seattle les 10 et 12 mai, du 10 au 12 mai dernier. Et où, Christophe, tu as eu la chance d'accompagner une équipe de podcasteurs, entre autres, de podcasteurs de Microsoft. Et on a pu ainsi retransmettre toutes tes discussions, tout ce que vous avez fait chaque jour, donc le débrief de Christophe. Et tout comme nos amis de Lifetide, d'ailleurs, qui ont également publié tous ces épisodes. Et nous avons ainsi eu l'idée ici à trois de faire un épisode, de consacrer un épisode à la Build, dans lequel on va reprendre chacun un sujet qui nous a marqué. Et on va pouvoir en débattre ainsi pendant quelques minutes chacun, et on va pouvoir tourner ça à sa sauce à chaque fois et expliquer un petit peu ce qu'on en a compris aussi. Donc voilà, comment ça s'est passé déjà, Christophe, là-bas ?
Ça s'est super bien passé, une super expérience. J'étais vraiment content d'y aller. C'est vrai que c'était une chance. Et j'ai pu découvrir tout ce qui se passait. Et puis, c'était en direct, mais l'expérience était très riche. Et puis voilà.
Ouais.
J'ai adoré. Ouais. J'ai vraiment adoré.
Nous, on a suivi ça aussi à distance, en direct aussi, Richard.
Oui.
Et on a suivi après toutes les discussions que vous aviez avec les autres podcasteurs, les autres membres de l'équipe. Donc, c'est en tout cas vraiment intéressant. C'est vrai qu'on ne savait pas suivre tout non plus, donc ça permettait d'avoir un résumé au jour le jour. C'était pas mal.
J'espère et puis, je trouve que là, Microsoft arrive enfin à un cap où, tu vois, la convergence à l'annonce de Windows 10 tout au départ, je trouve qu'on y est et encore plus. Et quand je vois certains petits trucs, tu sais, le copier-coller d'un device à l'autre, c'est un truc débile finalement. Enfin, débile, oui et non, mais naturel. Et puis, c'est génial, quoi. C'est plein de petits trucs comme ça, mais je trouve qu'il y a eu énormément d'annonces finalement.
C'est vrai, énormément. Et c'est vrai que Microsoft est plus dans un monde maintenant open source, libre. Donc, on a évidemment les infos au fur et à mesure quand elles arrivent sur Internet. Et donc, arriver quand même à sortir des nouveautés et à créer la surprise sur toute une série de petits points comme ça, c'est évidemment, il y aura à mon avis jamais des grandes nouveautés comme on les avait il y a quelques années, puisqu'on a cet aspect open source. Mais on va quand même pouvoir avoir de temps en temps des petites infos. C'est cool, c'est bien.
Ouais.
Si on commence peut-être par un premier sujet qui te concerne, Christophe. Donc tu as retenu un point qui est le Windows Template Studio.
Ouais, justement.
Explique-nous.
C'est un petit détail, mais je veux dire, lorsque vous créez des projets, au hasard, toi, Denis, vraiment au hasard, dans la foule.
Au hasard, oui.
Bon, quand tu utilises le MVVM Lite de Laurent Bunion, que tu as fait, je crois, un truc automatique, enfin bref, tu pourras nous en parler plus tard, tu en as pas marre à chaque fois de recréer, en fait, toujours la même chose, tes dossiers modèles, tes view modèles, tes view, tous tes paquets nuggets, tout remettre à chaque fois.
Créer tous les dossiers et replacer les petits fichiers qu'on a besoin à chaque fois.
Ouais, mais c'est vrai que ça peut être embêtant. Moi, je trouve que pas embêtant, mais c'est long finalement. Puis c'est chiant. Voilà. Du coup, un petit truc qui n'a pas été mis dans les keynotes, c'était en dehors, c'était l'extension de Visual Studio qui s'appelle Visual Template Studio. Ouais. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, quand je démarre un projet, j'aime bien que ça aille vite. Et puis, j'aime bien faire tout de suite F5. C'est peut-être débile. Il n'y a peut-être rien. Je ne veux pas que l'application soit finie avant même qu'elle soit commencée. Mais j'aime bien avoir un rendu ou en temps réel. Je ne sais pas vous, mais moi, je fais constamment un test. Quoi. Toujours, paf, allez, F5, ça marche ou pas. Il m'arrive où j'ai des projets où c'est vrai que c'est beaucoup plus long, où il y a beaucoup de trucs à mettre derrière avant de pouvoir lancer la machine. Mais là, franchement, je m'éclate beaucoup moins quand je ne peux pas faire F5.
C'est un peu ce qu'on a dans les projets web, je pense, hein. Un projet ASP.NET, tu choisis le type de projet, on va dire, au départ, projet vide, projet ASP.NET et autres, et tu as un modèle et tu peux faire F5. Il n'y a rien, il y a juste un titre, mais
ouais.
Tu peux faire ça.
Et rappelez-vous, les premières applications, à l'époque de Windows 8, quand on avait les applications UAP, me semble, je crois que c'était le nom, eh bien, on avait des templates, on avait directement le blank app, le grid app, le split app. Vous vous souvenez de tout ça? Et puis, en fait, dès qu'on est arrivé en UWP, eh bien, en fait, tout ça, en fait, ça a disparu de Visual Studio. On avait, en fait, ces templates de Windows 8 étaient basés surtout sur les guidelines qui étaient scrupuleusement suivis. Alors, et après, ben, arrivé à Windows 10, tout ça, ça a été un petit peu atténué. Et du coup, on a plus ces templates. Alors, il y en existait. Il y avait une mémoire, le template 10. Je ne sais plus de quel gars de chez MS avait fait ça. Bon, c'était assez sympa. Mais ce n'était pas directement. Et puis, ce n'était pas natif de la team Visual Studio. Ceci dit, il y a un an, c'était en août dernier, août 2015, est sorti l'UWP Community Toolkit avec plein de contrôles. Moi, ça, c'était quand même très, très bien pour démarrer un projet sans réinventer la roue, sans rechercher à droite et à gauche, en fait, tous les contrôles. Alors, le Windows Template Studio, c'est un complément, pour moi, à l'UWP Community Toolkit.
Et c'est-à-dire, ça te propose quoi?
Eh bien, en fait, au démarrage de ton Visual Studio, tu as tous les projets possibles, et pas inimaginables, mais possibles en réalisation. Mais là, en fait, tu vas avoir un projet où tu pourras un peu revoir la même chose que l'on trouvait avec Windows 8, c'est-à-dire que ça va te proposer de te mâcher le travail, comme tiens, je vais faire une solution avec un menu burger, je vais utiliser le MVVM Lite, et puis je vais rajouter telle ou telle page. Boum, terminé, tu ouvres ton projet, c'est fait. Tu es directement dedans.
Ben, c'est génial. C'est une sorte d'assistant, quoi. Donc, tu arrives sur un écran avec un petit. Tu choisis quelques options et ça te crée un modèle de code sur ça, quoi.
Et il n'y a pas moyen qu'on partage ton écran?
Alors, mon écran est déjà partagé. Tu veux que je lance Visual Studio?
Ben oui. Alors, pour ceux qui pourront regarder la vidéo, ça va être assez sympa. Puis, on va essayer de le décrire comme ça en live. Alors là, tu lances ton Visual Studio 2017 version. Tu es à jour au moins? Tu l'as mis à jour la dernière, la toute dernière?
Oui, mais je ne sais plus si je l'ai mis à jour sur celle-là, la version 2017.2.
Ça, la 15.2, voilà.
Ouais,
la 15.2 de Visual Studio 2017.
On peut regarder, on a besoin d'avoir celle-là?
Non, c'était juste comme ça. Parce que je... Alors maintenant, tu vas aller
Parce que là, je suis sur la Surface qui est un processeur i5, donc c'est un peu plus lent. Et d'accord. Je suis en... Non, je ne suis pas en 15.2 là.
Bon, alors, on va voir si ça marche. Tu vas aller sur ton menu Tools, puis tu vas aller sur les extensions et updates, extension and update.
Responding. C'est le Visual Studio qui est lent.
D'accord. Et tu travailles avec ce truc-là alors?
Non.
Tu
couperas au montage. J'enregistre juste les podcasts avec ce truc-là.
D'accord.
Et je regarde le reste. Non, j'ai une autre machine pour travailler. Ah voilà, ça souffre.
Voilà. Alors du coup, maintenant, tu vas te mettre sur Online, sur la gauche.
Ouais.
Et puis à droite, tu vas aller taper Windows Template Studio. Alors
Windows Template Studio.
Ah, on l'a vu. Il est là.
Tu l'as vu?
Bouge plus. Et tu l'as en bleu. Windows Template Studio, et tu peux faire download, et là on sait que ça va aller très très vite puisque tu es puis en plus c'est vrai,
c'est plus rapide que chez toi.
Pour relancer ton Visual Studio,
on est reparti pour relancer Visual Studio qui était déjà
oui mais c'est pas grave, c'est que pour du plus quoi. Donc là il installe l'extension, donc ça va très vite, excuse-moi, voilà, tu
marques
modifier pour valider, ouais c'est ça, en fait tu modifies le...
Là, il me le fait à chaque fois aussi. Quand j'installe une extension, il me dit qu'il y a toujours le Perf Watson 2 qui est en cours.
Ah, le Dr. Watson, je ne savais pas qu'il existait encore.
Le 2. Dr. Watson 2.
Ah oui.
Donc, en général, j'attends pas. Je fais OK, ferme-moi la tâche. Je ne sais jamais laquelle est derrière. Et donc, je redémarre mon Visual Studio.
Alors, notons que cette extension, c'est pour les applications UWP. D'accord. exclusivement. Ça arrête ton Enterprise, tu pourras faire des petits blancs et couper peut-être.
Ouais.
Et voilà. Donc maintenant, tu vas faire nouveau projet, enfin new project.
Nouveau projet.
Et enfin, tu vas retrouver sur la gauche, dans les applications universelles, les Windows, pardon, Visual C++, C-Sharp.
Visual C-Sharp, ouais.
Visual C-Sharp, Windows Universal.
OK.
Et là, tu as rien du tout. Sauf que...
Il faut choisir peut-être la dernière version du framework.
Voilà.
Ah ben voilà. Il faut être en framework 4.6.2 et tu as Visual Template Studio et tu fais OK.
Je fais OK. Et si on fait ça,
et là, t'as un nouveau menu qui arrive qui va être juste génial. Donc en fait, tu vas avoir plusieurs étapes et tu vas avoir 6 caractéristiques. Donc là, tu vas d'abord choisir ton projet. D'abord, tu as un projet panneau qui a un hamburger menu, projet pivot et onglet et tab, ou un projet vide. Tu as le droit de faire un projet vide. Non, on va pas. On va laisser sur le burger, très bien.
Donc celui qui est en bleu, c'est celui qui est sélectionné.
Voilà, c'est ça. Alors sur la droite, tu as Summary. C'est ce que tu es en train de suivre. On est en train de suivre les étapes que l'on fait. Mm-hmm. Maintenant, sur le framework, la deuxième partie de ton choix, c'est est-ce que tu veux faire du code behind, mon préféré. Ah, c'est-à-dire que là, tu vas avoir le code source derrière tes vues, très bien.
Ouais.
Ou alors du MVVM basique. Donc là, c'est vraiment le pattern de base initial. Et quand même, la grande classe
du MVVM Lite.
De Laurent Bugnon qui est intégré.
Et donc, ce qu'il a récupéré ici, c'est, on va dire, de type un peu online. Parce que j'ai vu une news de Laurent Bugnon disant qu'il avait travaillé là-dessus. C'est lui qui l'a développé, alors ça?
Je pense que c'est en partenariat avec...
Oui, en partenariat, mais je vois qu'il est marqué « Made by Laurent Bugnon ».
Voilà,
je suppose que
c'est génial, hein, quand même. Donc là, on va choisir ça, allez.
Laurent Bugnon, bah ouais.
Ça va faire plaisir, nous allons choisir ça. On voit bien que sur la droite, tu as même la licence qui va être mise, d'accord, avec les frameworks utilisés. Maintenant, tu vas faire Next en bas à droite, suivant. Et là, maintenant, tu vas choisir les pages que tu vas ajouter nativement dans ce nouveau projet. Donc, par exemple, on va prendre le master. Donc, tu vas cliquer sur le plus. Il va te proposer quel nom tu veux mettre. Tu peux le changer maintenant et tu valides par la petite case V.
Ouais, c'est ça. Bon, je laisse master detail.
À droite, automatiquement, tu vois bien que tu as master détail qui apparaît et tu peux en mettre plusieurs. Tiens, on va imaginer qu'on va souhaiter mettre une page, une carte. Donc là, tu vas cliquer sur le plus de map.
Map, ouais.
Tu choisis le nom map, ça convient, et tu fais plus. Pof, à droite, tu as une map qui apparaît, etc., etc.
Ah ouais, maintenant, on en a toute une série, en fait. Hein.
C'est génial,
mais background task, notification, lifestyle, toast.
On ne va pas aller trop vite. Juste après qu'on a choisi une page, maintenant, en fait, on va avoir plusieurs petits trucs assez sympathiques. C'est que, par exemple, le suspend et résume. Vous savez, quand on va suspendre une application et revenir en fait à la page, eh bien, tu vas pouvoir directement intégrer en fait ce qu'on va appeler les cycles de vie quelque part d'une application. Donc, tu vas pouvoir rajouter toute cette gestion-là.
Ouais, c'est ça.
Et sur la gauche, tu peux encore aussi rajouter le JSON, comme par exemple le sitting des storage, une classe de gestion de tes data inclus. Donc, ça, c'est sur la gauche. Tu vois le sitting storage.
Ouais, c'est ça. Ouais. Il est déjà coché.
Parfait. Bien sûr, tout ce que l'on fait sur la droite, on peut les supprimer au fur et à mesure par une petite croix sur la
Si on survole, il y a une croix rouge qui apparaît. Ouais.
Exactement. Est-ce que notre application va avoir un background, si on a un background ou pas? Un truc très bien ensuite, c'est les interfaces utilisateurs. Est-ce qu'on va avoir une lifestyle? Est-ce qu'on va avoir un TOS notification?
Ouais.
Et où? Une Azure Notification Hub, donc trois actions. Alors, ce qui est intéressant, c'est que tout ce système-là, c'est open source, bien évidemment, et là, je crois qu'on aime bien. On sait très bien qu'un plus un égale 3 et que tout ça va pouvoir s'étendre avec le temps, finalement.
Oui, c'est ça. Il y aura de plus en plus. C'est ça qu'on a vu au démarrage. Je pense qu'il s'est connecté. Et d'ailleurs, on voit les versions en bas, template, version. Oui.
Et donc, je suppose qu'ils vont mettre ça à jour régulièrement.
Wizard, c'est cette interface-là. Et maintenant, je t'invite à faire
Create,
excuse-moi mon accent du Nord.
Et ça fait la facture auprès du client aussi en même temps.
Mais tout à fait, à la fin de ton projet, vous avez passé autant d'heures de code. Chaque heure, il y a juste un petit coefficient d'entreprise, ce qu'on appelle les frais généraux. Et enfin, tu auras la facture prééditée dans une super application CDSoft qui va directement vous éditer en PDF la facture. Ouais. Alors, ça vous scotche chez les copains.
Là, il me dit que j'ai besoin d'avoir, et là, à mon avis, c'est parce que ma machine n'est pas à jour. J'ai besoin d'avoir la dernière
version.
La dernière version, 10.0, 15.0.63.
Honteux. Alors là,
si j'avais su, j'aurais pris l'autre PC. Hein.
Bon, c'est pas grave, mais je sais pas si tu remarques un petit peu, donc il va quand même Ah non, il va vraiment... Ah, c'est dommage ce qui t'arrive là. Bon bref, vous l'aurez compris, c'est quand même un outil, enfin un plugin. Ah oui, t'as carrément fait péter Visual Studio.
Et c'est pas moi, je n'ai fait que cliquer sur les boutons que tu m'as dit, moi.
Ouais. Mais moi, j'ai mais il n'y a aucun souci quand tu es à jour. Hein.
Et, bah ouais, quand t'as la dernière.
C'est juste
version.
Génial. Moi, ce que j'ai apprécié, c'est que, par exemple, MVVM Lite, c'est, j'utilise vraiment à tout petit. Mais j'ai pu aller voir un petit peu comment ça se faisait automatiquement. Rappelle-toi, Denis, mm-hmm. une fois, tu m'avais refait une explication sur MVVM Lite. On allait à Seattle, je ne sais plus quand. Mm-hmm. Et tout ça, mais on a quoi passé à une demi-heure. Mais maintenant, ça m'a pris 3 minutes. Et puis, tu peux aller voir un petit peu la mécanique directement sans te faire chier pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, à remettre ça en place. Et
ouais,
puis,
ça, c'est
finalement, je trouve que c'est très formateur.
Bah, il y a ça, et puis c'est vrai que moi je fais souvent des projets où il faut démarrer le projet, évidemment, quand c'est un nouveau truc à mettre en place, et bah, c'est toujours la même chose, quoi. C'est toujours reprendre un modèle ou quelque chose qu'on a mis en place chez des autres clients, et on va récupérer la structure de base pour pouvoir la remettre en place pour un autre. Bah, en gros, ça fait ce boulot-là. On choisit les modèles, et puis... Ouais.
Donc franchement, c'est à utiliser à foison, on n'a plus aucun souci... Je trouve excuse pour pas faire une UWP, mais vous rajoutez avec ça l'UWP Community Toolkit, mm-hmm. Bon Dieu, il n'y a plus que du code C# à faire, quoi.
Ouais, non, tout à fait. Mm-hmm.
Alors,
c'est bien.
Je vous l'ai dit, elle est sur GitHub, donc c'est sur github.com/Microsoft, bien évidemment, en un mot, Windows Template Studio. Et donc, ça va permettre de grandir. On peut s'imaginer que dans peu de temps, nous aurons les Adaptive Cards. Parce que ça, c'est quelque chose, il va falloir quand même que, je pense que tous les développeurs, ils vont avoir envie de se connecter en fait aux Adaptive Cards mm-hmm. avec leur app. Donc ça va être, t'imagines, on aura peut-être juste une case à cocher, clac, comme les Live Tiles, les Toast Notifications, ça sera juste un petit truc et la machine va être quasiment programme, ton projet. Donc c'est vraiment, vraiment sympa. Moi, je suis super content de ce petit plugin qui est apparu comme ça à la build.
Ouais,
qui
non,
est
vrai.
Vraiment formidable.
T'as regardé un petit peu comment ça fonctionnait en interne ou pas du tout?
Non, pas du tout. Je me suis vraiment. Moi, tu sais, je suis un gros fainéant. Ce qui est en interne, je t'avouerai que j'en ai rien à battre. Sincèrement, moi, je suis là, pop, ça marche, tef, et on est parti, quoi. Mais ce qui m'a bluffé, enfin pas bluffé, mais démarrer un projet MVVM Lite, franchement, enfin MVVM, pas, franchement, c'est le truc qui me. Bon, tu comprends pas, mais qui me casse les couilles, quoi, sincèrement. Et là, en fait, j'ai pu faire ça, mettre plusieurs interfaces, et puis je m'en suis même pas préoccupé. C'était tellement facile, en fait. J'ai juste allé chercher, hop, tiens, je rajoute une page, la liaison, elle est là, je la comprends, ok, elle est là. Après, comment ça marche derrière, franchement, je m'en fous, en fait.
Mais c'est du code qui fait, il n'y a pas de contrôle ou des choses comme ça. On a accès à tout, ouais, c'est ça.
Mais
c'est
très, très propre, franchement, c'est nickel.
Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, c'est vraiment pour avoir des trucs, enfin, des modèles de base, quoi.
Mais très, très bien.
Et,
voilà.
Et tu sais si on peut créer ses propres fichiers, on va dire, Windows Template.
C'est sur GitHub, mon ami.
Oui, sur GitHub, mais il faut le mettre après sur le site de Microsoft et il faut que ce soit publié. Je veux dire, on ne peut pas le faire soi en interne au niveau du.
Peut-être que tu pourrais, mais je ne sais pas. Je ne saurais pas te dire. Mais maintenant, je pense que ça va aller très vite à cette évolution. On n'est pas que 4 à utiliser Visual Studio. Mm-hmm. Et ce truc-là risque de faire partie des outils, des extensions bientôt de base.
Ouais. Ça ressemble un petit peu, ça me fait penser un peu, on a fait fichier nouveau projet, mais là on choisit en gros juste le type de projet, un nom et c'est tout, là il y a plusieurs étapes, on dirait que c'est un peu ce même principe mais de manière beaucoup plus évoluée, quoi, donc beaucoup plus personnalisable, et c'est ça qui est peut-être intéressant, donc peut-être qu'à terme les projets classiques, les autres, que ce soit du TypeScript, du web, tout ce qui est derrière, va peut-être passer par le même type de principe, parce qu'on a ça aussi. Si on prend du web, il y a aussi toute une série de frameworks qui sont souvent intéressants à placer. Ben, si on pouvait faire clic-clic pour les choisir, ça serait quand même plus intéressant, quoi.
Imagine qu'il y aurait une prochaine étape où tu choisiras... vous targetez quoi au hasard, iOS, Android, CAC, watch out. Et puis...
ça. Non, tout à fait. C'est ça, en gros. Ouais. Ça va juste choisir les bons packages NuGet, la bonne partie de code et te mettre en place toutes les bases. Et après, tu peux à la limite même effacer les fichiers si tu t'intéresses pas, mais tu as les structures de base qui sont là, quoi. Comme tu dis, avec le même MVVM, tu as tous les dossiers, tous les projets qui sont mis. Donc...
Mais c'est un temps... Non, mais on gagne du temps, hein, ça c'est vraiment...
Ouais, non, tout à fait. OK. Ouais.
Donc, en fait, je trouve que rapidement, s'ils peuvent... Enfin, si vous, parce que maintenant, on est acteur de ce truc-là, c'est directement d'aller intégrer... Et en même temps, ajoute-moi... l'UWP Community Toolkit. tant qu'à faire. Ah, oui, bah, c'est long quand même, t'imagines, il faut aller dans le menu Tool, Nugget, taper UWP.
Oh, ouais, mais il n'y a pas que ça. Y a après, c'est
utiliser le composant. Après, tu as le composant qui est là, que ce soit l'hamburger menu ou des autres qui existent dans UWP Toolkit. S'il est déjà mis un peu de la même manière qu'on l'a vu ici avec un modèle Master Detail, par exemple, bah, on aurait déjà tout ça mis en place, quoi. Connexion à Facebook, génial. Authentification Twitter ou des choses pareilles, tu as juste besoin d'appuyer sur une case à cocher et blouf.
Par contre, le menu burger, ce n'est pas celui de l'UWP Toolkit.
Ouais, mais ça, parce on va y revenir parce que je vais en parler tantôt, ça.
Ok, bah ça tombe super bien.
C'est bien. Hein.
C'est préparé, on a l'impression.
Ah, donc. Ok, ben, c'est très bien. Je pense qu'on a fait le petit tour sur ça. Je ne sais pas si tu avais d'autres choses à rajouter, Christophe, là-dessus.
Pas du tout.
On passe au sujet suivant, alors, Richard.
Oui, moi c'est.
Et donc toi, c'est. Bah là, on est parti dans la déprime.
Hein. On est en pleine déprime.
Mais non
oui. Donc, pour ceux qui n'ont pas l'image, on a une tombe avec Xamarin qui est affiché sur la tombe. Tout ça pour dire que Xamarin est mort. Alors, pas exactement.
Tu vas te faire des amis.
Je vais me faire des amis. Non, alors, Jair, c'est plutôt le côté marketing de Xamarin qui est en train de disparaître, le terme Xamarin qui disparaît. Moi, c'est quelque chose que j'ai ressenti en voyant un petit peu tout ce qui se passait à la build. On n'a pas de. Ils n'ont pas annoncé qu'ils arrêtaient Xamarin, bien au contraire, mais on voit que le terme marketing de Xamarin va disparaître petit à petit, ce qui est normal hein, avec l'absorption de Xamarin par Microsoft. La première étape, ça a été la sortie de Visual Studio pour Mac, ouais. Qui est une refonte de Xamarin Studio. Où ils ont rajouté les fonctionnalités pour les applications ASP.NET Core, ce genre de choses. Donc, il n'y a pas eu de grosses annonces sur Xamarin Studio, mais par contre, il y a cette nouvelle version de Visual Studio pour Mac qui apparaît. Et donc, on peut penser qu'à terme, Xamarin Studio va disparaître. La deuxième chose qui aussi est importante, c'est ça concerne l'apparition de XAML standard. Alors, je ne sais pas si vous en avez entendu parler.
Moi, c'est surtout ça qui m'intéresse.
Oui, alors Xamarin standard, alors, c'est un projet open source lancé par Microsoft. Donc l'idée, c'est d'avoir un seul langage XAML, un seul langage XML hein, pour décrire son interface. Donc, quand on y pense, ça ressemble dans le concept, ça ressemble énormément au Xamarin Forms. Mais là, ils reprennent ça vraiment à zéro. Donc, si on va sur le projet GitHub de Microsoft sur XAML standard, on a déjà un premier draft qui a été publié. Qui est vraiment sommaire. On voit vraiment que c'est le tout début. C'est qu'un draft. Il y a aucun projet qui a été sorti qu'on peut utiliser ou avec lequel on peut jouer avec. Si on regarde à l'intérieur, ben on voit qu'il y a juste comment on décrit une interface, un bouton, un text block, un text box, combo box, grid, stack panel, page et user control. Voilà, c'est tout. Donc, avec des fonctionnalités supplémentaires sur comment est-ce qu'on définit une margine, comment on définit l'alignement horizontal, vertical, la hauteur, etc., et les fontes. Donc, c'est une
spécification, quoi, plus.
Voilà, c'est complètement une spécification sur ce vers quoi ils veulent aller pour décrire un XAML qui sera standard et donc qui pourra être utilisé pour décrire les interfaces aussi bien sur iOS, Android que sur UWP.
Ouais.
Alors là où je dis que c'est une refonte des Xamarin Forms, parce qu'il ne faut pas se faire d'illusions, tout ce qu'on peut faire avec le XAML actuel, on ne pourra pas le faire en XAML standard.
Pour l'instant.
Pour l'instant, mais je rappelle quand même que XAML repose in fine sur une technologie DirectX, donc c'est sur du dessin et sur l'interfaçage entre le dessin et les interactions utilisateurs. Et c'est pas, c'est DirectX, donc il est natif au sein de Windows spécifiquement. Dans iOS, dans Android, tu n'auras jamais ce genre de choses. Et dans iOS ou Android, tu reposes de toute façon in fine sur les contrôles du système. Quand tu dis je veux un bouton dans Android, c'est un bouton Android, c'est pas un bouton qui est dessiné.
C'est vraiment... Et où tu veux en venir?
Là où je veux en venir, c'est que le XAML standard, c'est pour vraiment le prendre comme la nouvelle version de Xamarin Forms et non pas comme une nouvelle version de XAML au sens complet, quoi. Quand on voudra faire une nouvelle application Xamarin standard, on sera quand même assez vite limité par rapport à ce qu'on peut faire avec de l'UWP, quoi.
Oui, mais l'avantage aussi, c'est, on voit par exemple dans les composants, tu as le stack panel, c'est que si on dit par exemple actuellement dans Xamarin, je ne sais plus comment il s'appelle, c'est pas stack panel, c'est, je ne sais plus, stack quelque chose, enfin bref, c'est juste le nom, quoi. C'est au lieu, ici pour le moment, il s'appelle bouton quand c'est un bouton, ils auraient pu l'appeler Toto layout. Ou stack, oui c'est ça, stack layout par exemple pour le stack panel, donc déjà c'est pourquoi changer le nom, et c'est vrai que si on a un standard, d'où oui. Je suppose le nom XAML standard, ça permet d'uniformiser un petit peu ça et de ne pas se poser les questions après. Alors, c'est vrai qu'après, il y a peut-être des aspects techniques sur certains types de composants, mais un élément de type bouton, un bouton, ça existe partout, au moins qu'on l'appelle de la même manière dans sur toutes les plateformes.
Oui, non, c'est ça le gros avantage, c'est qu'on aura quelque chose qui sera standard pour iOS, Android et UWP.
C'est ça.
On n'aura pas besoin de réapprendre, on aura un designer qui sera le même pour tout le monde. C'est là où ce sera génial. Je ne dis pas que c'est une mauvaise nouvelle, je dis juste qu'il ne faut pas non plus trop s'emballer. Il y a un exemple bête et méchant, quand tu regardes un button, ce qui est proposé au niveau de la spécification, c'est qu'il a une propriété « content ». Là il y a marqué donc sur l'image il y a marqué My Button. On sait très bien qu'en UWP ou en XAML normal entre guillemets on peut mettre ce qu'on veut comme content, on peut mettre du texte, on peut mettre un text block, on peut mettre quelque chose d'un petit peu plus sophistiqué, on peut mettre un tree view si on a envie, on peut mettre un list view à l'intérieur d'un content. Ça va très loin. Mettre un tree view, par exemple, dans un button, bon, d'abord, ça ne sent pas grand-chose, mais... Non, mais tu peux mettre, par exemple, un stack panel, avec à l'intérieur du stack panel, tu mets une image et puis un text block.
Sur iOS, ça va donner quoi si tu fais ça?
C'est là où ça commence à être compliqué, quoi, au niveau de l'interprétation. Donc... C'est un framework element au sens XAML. Là, au sens XAML standard, je ne sais pas ce que ce sera.
Ouais, maintenant, ça pourrait être limité peut-être en fonction des plateformes. Par exemple, on voit le content égale my button. Je suppose qu'il pourrait dire, par exemple, que le contenu ne peut être que du texte si ça se trouve sur certains types de plateformes et plus avancé si jamais c'est autre chose.
Voilà, c'est ça. Bon, dans l'idée, c'est bien. Moi, je dis surtout que c'est une évolution d'Xamarin Forms. C'est ça où c'est la bonne nouvelle, c'est qu'on aura quelque chose qui sera standard pour l'ensemble des plateformes. Quoi.
Il fallait bien que ça commence comme ça, de toute façon, l'histoire. J'espère que l'histoire, elle va aller très très loin. Et puis après, Microsoft a racheté Xamarin. Xamarin, à l'époque, ils ont travaillé dans leur coin sans regarder, peut-être volontairement, pour ne pas faire une copie de leur Xamarin Forms, pour pas que ce soit une copie du XAML. Mais du coup, maintenant, c'est une uniformité. elle est juste logique suite au rachat, quoi. Fallait s'y attendre tôt ou tard, de toute façon.
Non, mais c'est pour ça que je dis que c'est pas. Je dis pas que Xamarin est mort, je dis juste que ça évolue et que le nom marketing va disparaître, quoi.
Xamarin n'est pas mort, il est intégré.
Voilà, c'est ça.
Et je ne sais plus où j'avais entendu, mais je ne sais plus, dans un des podcasts, c'est peut-être un podcast sur lequel tu avais participé, toi, Christophe, à la build, c'est possible, que justement, parce que je me suis toujours posé la question, pourquoi ils n'ont pas utilisé les mêmes noms? On voit par exemple content qui se trouve en texte d'un côté, pourquoi c'est click et on click de l'autre côté, pourquoi ça s'appelle le stack layout, stack panel.
C'est ce qu'expliquait Laurent Bignon.
C'est ça. C'est Laurent Bignon qui expliquait ça, que ça serait a priori peut-être aussi pour des questions de droit et autres. C'est que Xamarin, au moment où ils étaient séparés de Microsoft, ils ne pouvaient pas aller vraiment décompiler le code, le framework, pour des questions légales. Et donc, ils devaient simplement obtenir un résultat. Et ils inventaient en quelque sorte la manière de pouvoir y arriver, donc de pouvoir créer un clic, de pouvoir de pouvoir créer un content. Et donc forcément, du coup, bah, sans aller voir ce qu'il y avait derrière, bah, ils obtenaient des libellés ou des noms différents, quoi. Ici, comme c'est maintenant la même société, bah, évidemment, il y a non seulement un intérêt et une simplicité d'avoir le même libellé, la même propriété pour tout le monde. Ça simplifie énormément les choses, ça c'est clair.
Et ce qui permet, par exemple, là, de, maintenant, de pouvoir faire de l'ASP.NET Core sur un Mac avec Visual Studio pour Mac. Donc, ce qui est assez sympathique.
Ouais. Si on avait dit ça il y a ne fût-ce que quelques années, en disant Microsoft va commencer à faire ce genre de choses, donc des développements pour Mac avec des outils de développeurs pour Mac, je ne pense pas qu'il y a beaucoup de personnes qui auraient misé dessus.
Ouais.
Et on peut s'imaginer que UWP devienne vraiment universel un jour. Ouais. Je ne crois pas tout de suite, mais je pense que finalement, un jour, ça arrivera bien.
Bah ici, on est vraiment au balbutiement. Hein. Il y a .NET Core qui est là, il y a Xamarin qui est de l'autre côté. Enfin, c'est les mêmes objectifs pour chacun, mais on dirait vraiment que tout va dans le même sens. Lequel va gagner ?
Une fois que Microsoft arrive à ce que son propre UWP soit universel sur ses systèmes à lui, bah, la suite, c'est d'aller ailleurs.
Non, oui, non, tout à fait. Ça, c'est clair. Maintenant, ce n'est pas exactement la même chose qu'on écrit dans tous les systèmes. Donc, ça va être peut-être la difficulté, c'est quelle technologie choisir. Est-ce que c'est vraiment Xamarin, comme tu le dis, Richard? Est-ce que Xamarin est mort ou pas? Est-ce que c'est lui qui va survivre, donc qui va imposer sa manière de coder, d'écrire en quelque sorte? Donc, du C-Sharp, oui, mais après, c'est tout ce qui est au-dessus, quoi. Les interfaces, la manière de travailler. Donc...
Il y a une chose qui est sûre, c'est que il y a une grosse attente du côté de, alors maintenant de Xamarin Standard, mais de Xamarin Forms. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont très très en attente de l'évolution des Xamarin Forms, parce que c'est vrai que si ça permet de gagner du temps en développement et de pouvoir targeter l'ensemble des trois plateformes, ça intéresse énormément les sociétés.
Hein. Ouais. Ah oui, ça c'est clair.
Ah, puis Microsoft, il va y gagner à mort.
Oui. Et même par rapport aux autres, parce que c'est vrai que Microsoft se positionne dans l'aspect « je développe pour tout le monde » et il n'y a personne d'autre qui fait ça. Mm-hmm. Que ce soit Android, Google ou que ce soit Apple, ils ont des solutions pour leur plateforme. Parfois, ils développent pour les autres, mais ce n'est jamais un outil unique. Et c'est vrai que pouvoir développer, à part faire du web ou du JavaScript, c'est quasiment les seuls langages ou les seuls outils pour le moment qui permettent de faire, qui sont toujours de l'interprété, ou du semi-interprété. Alors qu'ici, on va vraiment pouvoir développer en natif avec toutes les possibilités que ça donne derrière.
C'est dis-moi, Richard.
Oui.
Visual Studio pour Mac. Est-ce que je peux targeter un Android?
Ah, la bonne question.
Est-ce que tu peux targeter un Android? Oui.
Ça veut dire que si je développe sur... vraiment, je peux faire une application mobile iOS et Android avec Visual Studio pour Mac.
Oui, parce qu'actuellement, tu peux faire un projet Xamarin sur Visual Studio pour Mac.
D'accord.
Sur Xamarin Studio, déjà.
Et aussi, du coup, je peux faire une application pour les trois OS principaux, hors Google Chrome. Enfin, comment s'appelle le Chrome OS.
Hors UWP.
Ah, pourquoi?
Pour la raison que je t'annonçais tout à l'heure. C'était
DirectX?
Oui.
D'accord.
D'accord. Ouais, donc pour développer en UWP, on est obligé de développer sous Windows.
Ouais.
D'accord. Mais ça veut dire qu'une entreprise qui fait une application qui target à l'heure actuelle iOS, Android, bon, sur Mac, il n'y a pas de souci. Le même code source, on peut imaginer que dans quelques années, ce même code source, elle se met sur. Elle développe la même chose, mais sur Visual Studio d'un PC. Son code va tourner. On se projette un petit peu plus loin. Hein. Mm-hmm. Il va toujours targeter iOS Android, mais là, elle pourra en même temps targeter UWP.
Oui.
Sans avoir rien touché, si on se projette un petit peu plus loin.
Oui, oui. Et puis, de toute façon, c'est aussi l'idée de .NET Standard, de pouvoir cibler l'ensemble des plateformes.
D'accord. Actuellement, il y a des entreprises qui le font concrètement avec le Xamarin, Visual Studio pour Mac, qui travaille que pour Android et iOS, oui.
Oui, ça, je pense qu'il y en a beaucoup.
Je pense,
ça.
Oui. Ouais.
D'accord. Donc, ça ne leur coûterait pas grand-chose de targeter Windows tout ou tard.
Maintenant, je ne pense pas que le nombre de développeurs qui sont sur Mac et qui targetent iOS et Android utilisent beaucoup Visual Studio pour Mac.
Ah oui, mais...
D'accord. Non, Visual Studio pour Mac, mais Xamarin... Xamarin Mac, oui.
Oui.
Oui, non, mais quand je dis Visual Studio, j'utilise le nouveau nom.
Oui,
ouais, ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Enfin. Et c'est vrai que l'utilisation aussi de .NET Standard et de pouvoir notamment faire du développement pour Linux, parce qu'il y a quand même beaucoup de serveurs de développement de sites web et des choses comme ça qui ont besoin d'avoir des ressources et de pouvoir développer en .NET et de pouvoir du coup le déployer sur Linux. Là, il y a également aussi, je pense, beaucoup de sociétés qui sont intéressées. Je ne sais pas si elles développent déjà maintenant en production, en tout cas avec ce genre de technologie, parce que c'est quand même assez récent, mais ça va arriver. Et dans tout ce qui est IoT aussi, je pense. Tout ce qui est système vraiment embarqué, les mini-systèmes, etc., qui sont aussi beaucoup sur des systèmes à plateforme Linux, ben, il n'y a plus de limitation à ce niveau-là, quoi. On fait du développement, mais c'est plus de la couche métier, là. Il y a moins des aspects d'interfaçage graphique.
Oui, absolument.
Ok, ben, c'est très bien, très intéressant en tout cas. Il y a d'autres points que vous voulez soulever avant de passer au dernier module?
Non.
Non. Christophe non plus?
Non. Je suis admiratif de vers où ça peut aller. Je suis admiratif du futur.
XAML standard, XAML, oui, XAML standard, on va pouvoir attendre.
Bah, écoute, c'est la version 1.0 quand même.
C'est la version 0.1.
Ouais, c'est ça. Parce une version 1.0 avec 4 composants ou 5 composants, c'est un peu léger. Quoi.
Hop, ça va.
Ouais.
1.0, quand même. Ils ont pas peur. Hein.
T'as raison, on
inversé par numéros, erreur.
Ok. Peut-être alors à ce moment-là, le dernière partie qui me concerne, puisque c'est le module moi que j'ai préparé. Et ben, moi, ce qui m'avait frappé également ici, c'était ce que Microsoft appelait le Fluent Design. Donc les nouvelles chartes graphiques et les nouveaux composants également, la nouvelle vision graphique que Microsoft met en place autour de ça. Puisque jusqu'à présent, il y a eu un intérêt au départ, mais beaucoup de critiques aussi sur tout ce qui était le design plat, le flat design, que d'autres sociétés, enfin d'autres fournisseurs, que ce soit Android et iOS, ont repris ensuite et ont adapté évidemment. Microsoft veut un petit peu avancer là-dedans. Et donc j'ai repris moi un peu vraiment tout ce qui avait été présenté à la Build lors d'une session pour en rediscuter ici et remontrer un peu les points clés que moi j'ai pu repérer et qui m'intéressaient. Et donc déjà la première chose qu'on va pouvoir signaler, hein, c'est que le fameux design métro. Donc Microsoft, enfin on peut dire un petit peu que c'est un peu fini, mais fini le métro, et bonjour maintenant tout ce qui est Microsoft Fluent Design. Et donc ça, le Microsoft Fluent Design System, ou bien le Fluent Design, c'est donc, en résumé, le nouveau design d'interface de Microsoft qui arrivera avec la Windows 10 Fall Creator Update, donc la prochaine mise à jour qui sera disponible en septembre prochain. Et donc on aura
qui commencera à apparaître.
Qui commencera à apparaître, oui, effectivement, à partir de septembre prochain. Mais donc, n'essayez pas, même si vous êtes développeur, sans avoir ça, de pouvoir essayer de développer avec tout ce que je vais vous montrer par après, les petites démos, parce qu'évidemment, il faut avoir le Windows en dessous, le kit de développement qui fonctionne bien pour que tout ça fonctionne. Je crois que ça existe déjà peut-être dans des versions Windows Insider. Moi, je n'ai pas installé Windows Insider, mais je ne sais pas si toi, Christophe, tu as testé ça.
Ouais, on voit apparaître déjà Groove, Contact, tout est déjà en Fluent Design. Alors, pas au niveau de la profondeur du depth, parce que tu n'as pas encore cet effet, tu sais, où ça bouge un petit peu là.
Ouais.
Mais tout ce qui est blur, tout ce qui est light, tout ça, c'est déjà intégré.
Ouais, c'est ça. Ok. Donc, ça, c'est ce qu'on verra à ce moment-là. Et c'est vrai qu'on va le voir. Alors. Tout ce qui va être montré ici, Microsoft le dit d'ailleurs à plusieurs reprises, technologiquement, techniquement, c'est possible. C'est pas pour ça qu'il va falloir après en mettre partout. Je pense que c'est l'application Contact d'ailleurs maintenant qui est quasiment transparente partout. Et il faut que ce soit encore utilisable après. Quoi. Si on met tout en transparent, on voit peut-être plus grand-chose. Donc il faut pouvoir jauger vraiment. Et là, c'est vraiment un métier de designer qui va permettre de dire ce qui est intéressant ou pas. Mais en tout cas, c'est intégré au système et c'est utile.
Oui, mais non. Parce que l'application, tu dis qu'elle est transparente partout. Non, je ne suis pas d'accord, puisqu'en fait, ils vont utiliser ce qu'ils appellent le matériel. Et du coup, il y a une sorte de blur, mais qui est très léger selon le matériel utilisé au niveau de cette transparence, enfin de ce blur. Ce qui fait que la liste des contacts, bah, sur la gauche, elle est, on le voit très accentué, mais pas au niveau du contenu à droite dans contact. Donc ils l'ont amélioré quand même, quoi.
Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Bah, c'est bien.
Mais c'est, ça évolue. C'est sympa.
Puis c'est, bah, ouais, c'est toujours un insider aussi, donc on va en voir des retours et puis ça permettra d'améliorer tout ça pour que ce soit le mieux possible la prochaine fois.
Mais à utiliser que par Simonie, je suis bien d'accord.
Ouais. Donc, ben on va se retrouver ici avec un design dit un peu plus immersif, multidimensionnel. Ça, c'est aussi la grande nouveauté par rapport au flat design pur, qui était vraiment un aspect vraiment très à plat et très carré. Et donc ici, en deux mots, ben on va se retrouver avec un design beaucoup plus moderne, qu'on retrouve parfois certains concepts dans d'autres types de systèmes aussi, et parfois certains éléments qui sont plus des nouveautés. Donc, en résumé, ce nouveau design va être construit sur une base de vagues d'évolutions successives, où tout le monde va pouvoir participer. Et donc ça, c'est ce qu'on va voir. Et donc le résultat de cette première vague, de ce premier élément, de ce premier jet, c'est ce qui était présenté par Microsoft à la build, hein, donc la dernière. Et donc ce nouveau design va être axé sur 5 éléments, qu'on voit ici pour ceux qui ont les slides. Le premier, ça va être la lumière. Il va avoir un élément qui va être le mouvement. Donc on va voir un petit peu comment tout ça va pouvoir bouger. La gestion des matériaux, donc tout ce qui est... je vais dire 3D également, les aspects de profondeur et les aspects d'échelle, donc de tout ce qui est redimensionnement. Et donc, quelques exemples qui seront, et je dis bien seront, disponibles sur Internet en projet ouvert aussi, qui est, donc ça sera sur github.com/microsoft/buildcast, donc BULDCAST. Pour le moment, le site est là, mais il n'y a pas encore le projet qu'ils nous ont montré. La personne, le présentateur, nous explique que tout n'est pas encore complètement fini, mais donc ça arrivera d'ici quelques jours, j'espère en tout cas. On va pouvoir tester tout ça, en condition évidemment, encore une fois, d'avoir la Windows Insider qui correspond à ça. Mais donc, en termes de fonctionnalités, ce que je vais vous montrer d'ici quelques minutes, c'est qu'on va retrouver différents types de fonctionnalités au niveau du Windows. La première chose, c'est la notion de ce qu'ils appellent l'acrylique. C'est-à-dire ça, c'est ce que Christophe disait, c'est avoir un fond transparent avec des effets, donc un background, ou bien dans l'app. Donc on peut avoir un effet transparent complet par rapport à Windows, ou on peut avoir une zone de l'application qui est transparente avec ce qui se trouve dans l'application en dessous. Style, on ouvre une fenêtre, ben, le contenu de la fenêtre peut être en transparent avec un peu d'effet d'opacité, quoi. Ça, c'est ce qu'on retrouve un petit peu sur la vidéo ici en haut à gauche. Ensuite, il y a des aspects d'effets dits de parallaxe. Et ça, c'est, on ne le revoit pas ici, on le verra plus tard, c'est des aspects de déplacement horizontal ou vertical, mais reliés à un décor. C'est typiquement ce qu'on retrouve aussi depuis déjà pas mal de temps dans des jeux vidéo et même les jeux vraiment de base, où vous avez les arbres du fond qui ne se déplacent pas à la même vitesse que la petite voiture qui se trouve devant. Et bien, donc, on va pouvoir faire exactement le même type de défilement, que ce soit horizontal ou vertical. Donc les
associés... Il est temps parce qu'on avait ça sur Atari et Amiga. Hein, ceci
bah ouais, c'est ça. Hein. C'est ça que ça fait un bout de temps, mais donc ici ça va pouvoir arriver, c'est bien.
Non, mais c'est connu comme effet.
C'est connu comme effet. C'est vrai qu'on ne s'en rend pas compte, mais on va le voir après dans quelques exemples. L'effet est surprenant et vraiment attractif, quoi. Ça donne un effet supplémentaire à l'application qui est vraiment très intéressant, très cool. Et ça, je trouve ça pas mal. Et d'ailleurs, dans tous ces aspects-là, il y a les aspects d'animation. Et ça, c'est ce qu'on retrouve un peu en haut à droite ici sur l'écran, ou en bas aussi, c'est des adaptations, donc du repositionnement, des aspects de coordination. Donc par exemple, quand on va cliquer sur une zone, sur un élément, il va pouvoir repositionner une image et la redéplacer, donc avoir un espèce d'effet de transition entre deux écrans. Et on va le voir, c'est vraiment comme ça que ça va se passer, c'est qu'entre dans la navigation d'une page à l'autre, on va pouvoir lui dire « je vais naviguer de ma page 1 sur ma page 2 avec une animation intermédiaire de telle zone, telle image qui va pouvoir être animée avec tous les effets d'animation qu'on peut retrouver classiques, quoi. »
Ce qui explique que c'est extrêmement difficile à décrire uniquement, ouais. uniquement par la parole, et c'est vraiment que par visuellement parlant qu'on peut, voir comment ça se passe, quoi.
Ouais. Ça, c'est vrai que, et c'est pour ça que c'est vrai que ceux qui ont les slides, c'est plus simple parce qu'il y a des petites vidéos que j'ai mis dessus. Maintenant, avec le projet Buildcast qui se trouvera d'ici quelques jours, ben, quand on pourra l'exécuter, il y a tous les effets qu'ils ont présentés qui se trouvent à l'intérieur et qui sont mis de manière quand même assez cohérente, quoi. Ça, c'est pas mal. Il y a un autre aspect aussi, c'est les aspects de vidéo. Donc, on va pouvoir également intégrer des vidéos avec vue 3D, ce qu'on retrouve aussi maintenant de plus en plus sur Internet. Ben, on retrouve ça également on va pouvoir retrouver ça facilement dans nos projets. Et tout ce qui est également stylo, le ink, Donc l'encre virtuelle va pouvoir être également intégrée très facilement avec simplement quelques composants. Alors j'ai repris, pas tous, mais certains composants. Et le premier, ben, c'est celui dont on parlait tout à l'heure, Christophe, qui est ce que Microsoft appelle ici Navigation View, et qui est dans les autres frameworks, ou même dans celui du WP Toolkit, Community Toolkit, qui est le hamburger classique. Ici, ça s'appelle Navigation View, et donc c'est la barre de navigation. Et cette barre de navigation, qui a la forme d'un hamburger, il y a toutes les options classiques et possibles dans lesquelles on va pouvoir le faire défiler à gauche, à droite, quand on appuie sur l'hamburger, sur les trois petites lignes, avec directement l'intégration des icônes. Avant, il fallait souvent passer par des caractères et on avait des fonts à l'intérieur. Ici, on va directement pouvoir mettre le nom de la font, en quelque sorte, qu'on va vouloir utiliser, de mettre son texte, de mettre directement l'utilisation de cet hamburger, comment il va se représenter, et tout ça est intégré avec tous les autres effets. On le voit d'ailleurs ici sur l'écran, c'est l'aspect de fait de blur, donc un peu de transparence. Donc tous ces composants de base vont pouvoir être liés avec les autres effets qu'on va retrouver également au niveau du design, quoi. Et donc cet objet, on va dire, ce Navigation View, ce nouvel objet, va nous permettre directement d'intégrer cette barre de navigation qui va s'adapter en fonction du device aussi. Ça, c'est l'aspect redimensionnement, le scales dont on parlait juste avant, qu'on verra un peu après aussi, en fonction de la taille de l'écran, donc si on est sur un mobile ou si on est sur un écran plus large, un écran de PC, on va pouvoir définir une taille ou un positionnement un peu distinct l'un par rapport à l'autre. Donc voilà, ça c'est le premier type de composant. Alors, à l'utilisation, on va pouvoir rajouter du code, et notamment ici, c'est avoir la possibilité de mettre la barre de titre. Il y a beaucoup d'applications où on a une barre de titre, on va dire bleue, avec les boutons mettre en minifié, donc minimiser, agrandir, etc., ou la croix qui se trouve en haut à droite. Et bien, on va pouvoir faire vraiment une intégration de ce que l'on souhaite. Là, ça se fait plus par code, donc de la title bar, dans lequel on peut donner tout ce qu'on veut en termes de couleur, en termes d'état, donc à la fois avoir cet aspect de transparence, cet aspect de dégradé, et on peut le gérer, ça je reviendrai aussi juste après, c'est qu'on peut le gérer en fonction aussi du device qu'il supporte ou pas. Et donc ça existait déjà il y a quelques mois ou quelques années maintenant. Il y a une méthode qui est dans API Information, qui est le isTypePresent, dans lequel on met une chaîne de caractères qui dit, tiens, si cet espace de nom, ce namespace existe sur la plateforme dans laquelle je suis, à ce moment-là, je vais exécuter le code qui se trouve en dessous. Et donc dans ce cas-ci, si on se retrouve dans un Windows 10, par exemple, qui supporte cette fonctionnalité de title bar, je vais pouvoir exécuter le code. Et donc, ça ne va pas planter si jamais l'outil, je vais dire, ou le SDK n'est pas disponible pour ma plateforme, quoi, pour mon outil. Et donc là, en une ligne de code, on instancie simplement ici un objet de type Core Application View Title Bar. Et puis, on peut lui dire, je veux étendre mon application avec cette barre d'outils, enfin, ce titre. Et le résultat, c'est que directement, ça apparaît au-dessus, donc mon application est fondue comme on a sur les applications de Microsoft. Je n'ai plus ma barre bleue un peu moche qui se trouve au-dessus, enfin bleue ou peu importe la couleur, mais qui se trouve au-dessus. Elle est vraiment fondue avec mon titre qui se trouve à l'intérieur. Voilà. Okay. C'est ce qu'on retrouve ici, en haut de l'écran. On retrouve directement le titre avec le bouton retour en arrière, par exemple, et les boutons maximiser, la croix qui se trouve en haut à droite. Tout ça directement, donc il n'y a plus vraiment cette barre, ça fait une seule application, un seul rectangle, on va dire, pour la fenêtre dans laquelle je me trouve. Alors, un des effets qui était le plus intéressant et le plus applaudi peut-être lors de la présentation, c'est l'effet dont j'ai parlé, le acrylique matériel. Et donc ça, c'est vraiment ici intégré à Windows, intégré au système, c'est le fait d'avoir cet aspect de fondu, cet aspect de blur, donc de transparence, au-dessus d'un composant, et comme je l'ai dit, c'est soit un aspect de transparence par rapport au bureau, par rapport aux applications qui se trouvent en dessous, ou soit dans l'application elle-même. Donc on va pouvoir simplement définir une zone, comme un rectangle, et de dire que cette zone-là, par exemple ma fenêtre qui va s'ouvrir au-dessus, elle est en fenêtre transparente par rapport à ce qui se trouve en dessous. Et ça va pouvoir être géré directement par Windows. Donc ils nous ont fait quelques démos en termes de performance, c'est quasiment, enfin c'est immédiat, je vais dire, c'est intégré directement, je suppose, en DirectX et dans la technologie de bas niveau de Windows. Mais alors surtout aussi, ça va pouvoir être géré par des règles. Et si j'ai bien compris, même à terme, l'utilisateur pourra peut-être les activer ou les désactiver en fonction de certaines conditions. Exemple, s'il veut que son application, que son écran, parce que son PC est un peu plus lent, sa carte graphique est plus lente ou son CPU est plus lent, mais il va pouvoir dire « je ne veux pas activer cette fonctionnalité ». certes celle-là, donc l'aspect acrylique, voire d'autres aussi qu'on va voir par après d'effet, on va pouvoir les désactiver, soit pour ça, soit si la batterie, parce qu'apparemment ça bouffe énormément de performance ou de puissance au niveau batterie. Et donc dans ces deux cas-là, on va pouvoir, ou peut-être d'autres cas aussi, on va pouvoir désactiver les options d'acrylique par exemple dans ce cadre-ci. Et donc moi je me mets dans le cas par exemple d'un téléphone qui est peut-être un peu plus léger en termes de processeur, peut-être que ces options seront peut-être désactivées de manière automatique ou qu'on pourra régler ça en fonction de, ben, je sais pas, je suis à 20% de batterie, je veux pouvoir prédominer la batterie par rapport au reste et donc je pourrais désactiver ça.
Je vais faire encore ma mauvaise langue, mais il me semble que dans Windows Vista, on avait un ouais. petit peu, alors c'est pas exactement le même effet de transparence, mais bon, parce que sinon je vais me faire engueuler, mais on avait cet effet de transparence, et l'une des raisons pour lesquelles justement ça avait été abandonné, c'était il avait dit que ça consommait de la batterie et que ouais. c'est pour ça qu'il voulait l'abandonner, quoi.
Oui, tout à fait. Ben, ils sont revenus là-dessus aussi, et c'est ce qu'ils disaient. Apparemment, c'est peut-être pas encore complètement clair ou défini dans quelles conditions ces règles, ces policies vont pouvoir désactiver ça. Est-ce que ça se fera de manière manuelle ou de manière automatique en fonction de certaines conditions, ça à voir. Mais apparemment, ça pourra être désactivé. Et on va le voir après, c'est juste une ligne de code pour pouvoir justement activer cet effet de transparence. Ben, je suppose qu'il faudra quand même régler le cas, le visuel, pour que si jamais l'effet n'est pas là, que ce soit quand même une application qui soit agréée. Qui soit agréable à regarder. Quoi, ouais. Mais il y a toujours.
J'aime beaucoup, mais bon.
Ouais, moi aussi. C'est, encore une fois, c'est vrai que c'est un des points. Il y en a un deuxième qui reviendra après, mais un des points qui a été très applaudi, je veux dire, qui était très souhaité par les personnes qui étaient présentes là-bas. Et c'est vrai que graphiquement, c'est joli. Hein. Cool. Faut pas le mettre partout. Donc là, on le voit sur le menu. Et je pense que c'est l'application Contact est peut-être comme ça aussi, hein, Christophe. C'est les aspects avec la liste.
C'est exactement contact. Ça, en fait. Ouais. Ce qu'on a sous les yeux, c'est Contact.
Ouais, c'est ça. Ben, ça, je trouve ça pas mal. C'est vrai que ce qui se trouve avec la liste des contacts à gauche ou bien la liste du menu qui se trouve à gauche avec un effet de transparence, de je sais pas, moi, il y a peut-être 10-20% de transparence, donc on arrive quand ouais. même à lire.
Ben, et alors, ça donne un effet qui est vraiment. Point de vue cool. d'un designer, comme on dirait présentement, en fait, ce qu'on a sous les yeux, c'est que le contenu, en fait, est encore plus mis en avant parce que ouais. tout ce qui est le burger menu à gauche, ce menu view. Oui, ben il est un peu plus voilà, en retrait, ce qui à peine amène, disons, un intérêt pour l'application. Moi, ce qui me manque maintenant, c'est qu'il y aurait, c'est d'ajouter un petit peu plus de depth, de profondeur à l'appli pour que ça soit encore plus fun.
Oui, ça, on va voir par après. À mon avis, moi, la difficulté que j'aurai, parce que mettre une transparence comme ça, ça va être assez facile. C'est une ou deux lignes de commande, une ou deux lignes de code. Mais par contre, effectivement, les combiner avec, tu dis, la profondeur et avec les autres effets...
Ça risque d'être plus chaud pour le développeur, pour ouais. le non-designer.
Pour, voilà, c'est ça. Mmh. Pour nous, pour moi qui ne suis pas designer du tout, j'ai déjà du mal quand je dois mettre deux couleurs ensemble, si c'est du vert ou du rouge. Alors là, je n'imagine pas ce que ça va donner. ça va devenir illisible, mais bon. C'est un métier, hein, designer. Mmh. Moi, je trouve ça toujours très joli. C'est pour ça que le sujet m'intéressait, mais je suis incapable de le faire. Hein. J'arrive à faire des petits trucs, mais je prends les modèles, je copie.
Ouais, bah ouais.
Et donc, ben, en pratique, voilà comment Microsoft met ça en place. Il a tout simplement, entre autres notamment, défini une ressource. Donc, il y a un thème ressource. Donc, par exemple, on prend un rectangle, on fait rectangle fil égal, et on met thème ressource, système contrôle acrylique, window brush.
Putain,
et
on a Monopoly, on est fort.
Au Monopoly.
Enfin, non pas Monopoly, mais t'as vu le mot qu'ils mettent, les mecs ils sont.
Ah ouais, mais ça.
Le
pas
système contrôle Chrome High Acrylic Windows Medium Brush.
Voilà, ça c'est le Bingo. Deuxième. Et t'as le système contrôle Acrylic Element Accent Medium High Brush.
Sans heureusement espace, sans
heureusement qu'il y a l'IntelliSense. Hein.
Pah
sans
espace. Bah non, ils sont limités à 256 caractères quand même.
Oui.
Putain, on a du bol sur le coup. Non, je disais le Monopoly. C'était on appelle ça. Le jeu, aidez-moi.
Je sais pas si c'est
le
des
Scrabble.
Dessins. Ah oui, le Scrabble. Ah oui, non, on fait des points, ça c'est clair. Hein.
Putain.
Surtout avec le nombre de lettres à l'anglaise, on va se retrouver avec des C, des Y, des Z. Non, c'est bien.
Mais ceci dit, voilà, c'est super facile à utiliser dans la partie XAML.
Oui, ben c'est ça. Au niveau XAML, bon, alors après, ils ont montré d'autres choses. Il y a moyen d'étendre, si on fait ses propres jeux de couleurs pour avoir des thèmes de base, il y a moyen de repartir sur des thèmes existants, donc ces thèmes-là, et puis de les étendre et de rajouter. Donc si on est designer, on peut aller beaucoup plus loin que simplement utiliser le modèle qui est là. On peut créer, et pour peut-être mettre à ce moment-là des noms plus courts, ça va pouvoir t'aider, Christophe, pour pouvoir les retrouver plus facilement.
Mais il y a la TeleSense pour ça, comme tu dis.
Ouais,
alors, toujours dans la catégorie langue de pute, thème ressource n'est pas supporté par XAML standard.
Et c'est normal, c'est la version 0.0001. Ouais. Oui, on ne peut pas faire de template actuellement des contrôles sur XAML standard.
Bon, ça viendra, ça, parce que ça va devenir indispensable. Alors, une autre fonctionnalité, et au début, il m'a fallu 2-3 fois avant de comprendre exactement, parce que j'avais l'impression que ça existait déjà, ou du moins ça me paraissait évident, je vais dire, et ben non, c'est l'aspect lumière et révélation de la lumière, on va dire. C'est-à-dire que Microsoft a maintenant mis un système de style pour pouvoir, le cas typique qu'on va voir, c'est le bouton. Quand on passe sur le bouton, ben, le bouton va pouvoir en quelque sorte s'éclairer. Alors s'éclairer, c'est changer un peu de couleur ou avoir un effet de bordure un peu plus léger, un peu plus... Mais donc il va permettre de faire ressortir l'élément sur lequel on est en train de passer la souris. Et ça, ils ont justement amélioré tout cet aspect-là aussi de passer la souris, on va dire, sur les boutons, sur les zones. C'est que ça va pouvoir fonctionner non seulement avec la souris, mais avec tous les autres supports, on va le voir juste après, tous les autres supports également. Donc que ce soit Xbox pour pouvoir passer sur les éléments, avec la manette. Que ce soit le stylo, donc le fait de pouvoir passer dessus, on aura d'autres types d'options, de pouvoir passer avec le stylo et de pouvoir appuyer pour cliquer par exemple, et des choses pareilles. Donc on pourra avoir cet effet également de révélation, donc de lumière. Et par défaut, il y a tous les composants de base, dont forcément le Navigation View, donc l'hamburger menu dont on vient de parler, et ceux qui existent déjà, l'Ease View, Grid View, Combo Box, Command Bar, et le Media Transport Button, qui est le petit bouton qui va apparaître en dessous d'une vidéo par exemple. Mais tout cela ont déjà un style par défaut qui est prédéfini par Microsoft et qui va avoir cet effet-là. Et donc typiquement, ben, quand on va passer sur un bouton, on va dire classique, ou une barre de commande, on va avoir l'effet, je prends le cas de, ce qui me vient à l'esprit, c'est dans Word, quand vous passez sur le bouton de formatage ou un bouton qui se trouve dans la toolbar, dans la barre de commande, il passe, je pense, en orange par défaut. Donc il y a cet effet de faire ressortir le bouton au moment où on fait un survol sur ce bouton-là. Et donc là, en fonction du thème, évidemment, on va pouvoir l'adapter. Ça peut être juste mettre un petit filet blanc autour, soit un petit filet noir en fonction du thème dans lequel on est. Mais donc il va pouvoir ressortir. Et c'est vrai qu'après réflexion, quand on passe actuellement sur les éléments, on n'a pas tout cet aspect de bouton qui ressort avec ses couleurs qui ressortent. On voit le bouton simplement avec un cadre, on clique dessus et on voit simplement que le cadre, donc le rectangle s'enfonce, mais il n'y a pas cet aspect, comme on le voit sur l'image ici, d'aspect un peu plus clair ou un peu plus fondu par rapport à ça. Donc ce sont des petits détails, mais mine de rien, ça va quand même influencer les applications qu'on va réaliser. Et donc pour mettre ça en place, il suffit sur les styles qu'on a déjà, donc on voit par exemple ici, il y a la définition d'un style qui fait le Target Type Button, on va juste lui donner un base on, donc le contenu qui est mis en commentaire sur le slide dans le code, on met base on égale static resource button rival style, qui va être ajouté par rapport au style existant. Et donc ça permet d'avoir tout le style classique, donc on peut avoir une largeur au bouton de, par exemple ici 80 pixels, une hauteur de 40 pixels, une couleur de fond, une couleur de marge, etc. Et en plus de ça, on va utiliser tout cet aspect de révélation de couleur lorsqu'on passe sur l'élément. Et donc c'est, encore une fois, ils ont essayé de faire ça toujours de manière assez simple pour le mettre en place. Et c'est vrai qu'une seule ligne de commande, quelques mots, et ça nous rajoute de la visibilité. C'est ce qu'ils faisaient dans la démo. Je donnerai d'ailleurs le lien vers la vidéo. Ils montraient à chaque fois le projet, on va dire avant-après, dans lequel on avait le code sans l'utilisation des nouveautés, puis il enlevait le commentaire, il recompilait, il exécutait, et on voyait tout de suite la différence. Et c'est vrai qu'on ne se rend pas toujours compte, mais ça donne quand même pas mal de petites nouveautés. Alors, ça, ce sont toute une série d'autres points qui existent, et je pense en partie aussi dans UWP Community Toolkit. C'est toute une série de commandes sur tout ce qui est liste, collection. Donc, on a des list box, les list view, etc. Et donc, Microsoft a rajouté des choses qui existent dans tous les systèmes maintenant, telles que le swipe. Donc, passer horizontalement sur un élément de la liste et faire apparaître et l'ont fait de manière assez facile également, donc de faire apparaître des commandes par défaut qui vont pouvoir, je ne sais pas moi, un email comme on a dans l'application de courrier, quand on le fait aller à droite ou à gauche, on fait d'un côté ça supprime le mail, de l'autre côté ça le rend lu, non lu, simplement en faisant un swipe gauche ou droite, on va pouvoir gérer ça. Et donc ils ont géré tous ces aspects-là, mais avec aussi une vision, on en parlait juste avant dans les autres sujets, une vision multiplateforme. Donc non seulement utilisable au toucher, c'est le but du swipe, mais avec à chaque fois des alternatives, je vais dire, si jamais on travaille sur d'autres plateformes telles que le stylet, telles que la Xbox. Par exemple, il y a le menu contextuel. Le menu contextuel, sous Windows, typiquement, c'est clic droit. Et puis, ils ont rajouté le long press, donc le touch long press, et ça sur tous les composants, tous les composants de base de type collection qu'on a vu. Ils ont rajouté le clavier, ils ont fait un Shift F10, ça permet de faire aussi cet aspect d'affichage de clic droit. Et sur la Xbox, même chose, il y a le petit bouton qui permet d'ouvrir et on obtiendra exactement le même menu contextuel qui apparaîtra dans tous les cas. Sur le survol, j'en ai déjà parlé, c'est la même chose. Et tout ce qui est raccourci aussi, donc toutes les collections et tous les boutons vont pouvoir disposer également de raccourcis pour travailler au clavier. Donc, encore une fois, la même application va pouvoir servir dans les différents environnements avec lesquels on veut travailler. Et ça, c'est cool aussi. Et donc ici, ça concernait le swipe. On le voit là, c'était mis en preview sur un namespace qui s'appelle preview, mais ils ont simplement rajouté, par exemple, derrière le relative panel, ils ont rajouté une balise swipe content dans laquelle ils font le swipe content item, dans lequel ils peuvent mettre deux items lorsqu'on fait un déplacement. Et ils ont en plus simplifié ça avec un swipe container sur le data template, dans lequel on rajoute dans le data template une balise swipe container, dans lequel on dit write content égale, et on met la commande qui s'exécute lorsqu'on fait un déplacement droit au niveau d'un glissé horizontal vers la droite, par exemple. Alors, il y a aussi parfois des petites astuces, c'est qu'en fonction de l'environnement, si on fait pour éviter des erreurs du style on est avec un, je ne sais pas, au toucher, on va peut-être pouvoir faire un déplacement à gauche et on aura là des options qui vont pouvoir dire que l'action s'enclenche dès qu'on relâche ou bien on ouvre un menu, donc le menu avec un ou deux boutons, et on doit réappuyer, donc recliquer sur ce bouton-là pour pouvoir le valider. Donc ça peut être pas mal si on fait un delete, par exemple, on ne fait pas juste un swipe gauche, mais on va faire swipe gauche plus appuyer sur le bouton, sur le clic. Sur le bouton qui apparaît. Donc voilà, et dans les derniers points qui sont apparus, c'est les animations connectées. Et donc je disais tantôt, il y avait l'aspect fondu, transparence, le blur de tout à l'heure, qui était donc l'acrylique, qui était très, très attendu. Et ce qu'on a également ici très bien accepté aussi, vraiment aimé, c'est les aspects d'animation connectée. Et la question était surtout de savoir, mais comment réaliser ça? Et donc on le voit un peu sur l'animation ici, le fait de prendre ou de cliquer sur un élément d'un item, on clique sur cet item, ça veut dire qu'on change de page, on fait vraiment naviguer tout vers une nouvelle page, et cette nouvelle page, a priori, va afficher cette petite vignette sur laquelle on a appuyé, mais va se retrouver à un autre endroit, et il y a vraiment un effet de transition entre les deux. La petite vignette qui se trouve en bas à droite va se retrouver déplacée avec cet effet de déplacement, d'agrandissement, pour se retrouver en haut à gauche, avec peut-être des informations supplémentaires qui apparaissent en fondu et ce genre de choses. Et donc, ça, c'est les aspects d'animation connectée. Ça va vraiment des écrans avec un effet de transition qui sont vraiment très intéressants. Et pour faire ça, c'est très simple, je dirais. C'est qu'on se base sur, on le voit ici, source page à gauche, donc la première page, destination de page à droite. Et entre les deux, lors de la navigation, on vient simplement, lorsqu'on fait un navigate to destination, donc un navigate to, avant de faire la navigation, on lui dit voilà quelle est l'animation avec laquelle je veux travailler. Et on va pouvoir récupérer cette animation dans le on navigate to de la page de destination de l'autre côté. Et donc ça permet ainsi de préparer la navigation, parce qu'évidemment, il y a tout un process derrière qui est quand même assez lent, je veux dire, à mettre en place, ouais, assez balèze. Et donc on va lui dire, je vais prendre ma source image, on la voit ici, il y a une image qui est définie, source image avec une image dedans, je prends cette image-là, je vais lui appliquer une animation que je vais préparer, et cette animation, c'est une animation tout à fait classique, comme on les fait actuellement avec des animations de type storyboard ou des choses comme ça, quoi. Et de l'autre côté, on récupère un objet, Connected Animation, qu'on va pouvoir demander de faire un try start pour démarrer l'animation, au moment où on fait le on navigate to, donc au moment où la page de destination arrive. Et entre les deux, on a tout cet aspect de navigation entre les deux, entre l'image en bas à droite, plop, qui remonte et qui se retrouve en haut à gauche.
Tu alors sais à quoi après... ça me fait penser, sans être développeur, ça me fait penser au morphing qu'il y a maintenant dans PowerPoint.
Dans PowerPoint, oui, ça m'a fait penser à ça.
Sans code. Toi aussi ?
Oui. D'ailleurs, je me demandais à un moment donné s'ils n'allaient pas faire ça en disant ben, on sait quelle est la page source, quelle est la page de destination, laissez-nous faire, on va prendre en gros une image de la page source, une image de la page de destination sur laquelle on veut arriver, on va faire le morphing entre les deux. Et c'est un peu ce principe-là, quoi. Sauf qu'ici, on lui dit simplement, voilà quelle est la zone avec laquelle je veux faire ce morphing. Et puis ensuite, bah, le morphing, en quelque sorte, va s'opérer de manière... Puisque l'animation, c'est ça. Si on fait l'animation dans Visual Studio, on va la réaliser de cette manière-là, quoi. Bon, après, il faudra la tester, j'ai pas l'occasion.
Oui, là, dans l'exemple que tu donnes, tu prends deux tags images en source et en destination. Ça peut être un framework élément de quelconque ou c'est forcément une image.
Eux, ils ont parlé d'image, mais je pense que ça peut être aussi d'autres composants, ouais. Mais eux, ils ont surtout parlé d'une image. Après, est-ce qu'il y a des limitations, ne fût-ce qu'en termes de performance ou ce genre de choses Mais si j'ai bien compris, ça peut être d'autres types de composants, peut-être pas tout, mais peut-être effectivement une frame ou une image. Donc, il y a peut-être certains composants qui sont acceptés dans ce cadre-là.
Oui, parce qu'on peut imaginer qu'ils font une sorte de capture d'écran du framework Element et qu'ils font le morphing avec.
Oui, c'est ça. Donc voilà. Dernier point, c'est au niveau des nouveautés, on va dire, dans ce nouveau framework graphique, c'est l'aspect parallaxe. Et ça, ben, c'est ce qu'on disait
Atari.
Tantôt. Hein. Voilà, c'est Atari, c'est les jeux vidéo, dans lesquels on voit le décor qui se déplace un peu moins vite que l'avant-plan. Ça paraît tout con, mais encore une fois, l'effet visuel, moi je trouve ça toujours assez sympa, quoi. On a des effets qui sont vraiment agréables lorsqu'on voit dans sa démo le fond, donc son image de fond qui était l'image un peu stylisée de Seattle par rapport à ces images en dessous de podcasts qui passaient. Et ça donne un effet de navigation, de bouger vraiment, de mouvement dans l'application, mais qui n'est pas trop lourd et qui est vraiment intéressant. Et donc pour mettre ça en place, ben, ils ont tout simplement créé un nouveau composant qu'ils ont appelé Parallax View. Et donc, là, il y avait un namespace qui était le WUXC, mais ça, à mon avis, c'était temporaire le temps de leur démo. Et donc, on utilise la balise Parallax View en XAML. On lui donne une source en lui disant quel est le contenu donc, sur lequel il va être relié, le Home Feed Grid qui se trouve ici. Et par exemple, à l'intérieur de ce Parallax View, il y avait une image. Et le Home Feed Grid, c'est une grille qui se trouve au-dessus ou en dessous, je ne sais plus, mais donc une grille qui est reliée par rapport à ça, et en fonction de la navigation, on va pouvoir ensuite, alors il y a des valeurs par défaut qui donnent un effet de glisser, je vais dire un peu classique, mais après apparemment tout ça est un peu configurable, et on peut régler ça un peu comme on veut, quoi. Et donc on voyait ici l'image, c'est le Build 2017 Seattle Skyline, donc le dessin de Seattle qui apparaissait par rapport au buildcast, donc par rapport au logo des différents podcasts qui apparaissaient dans l'application. Il faudra vraiment avoir l'application dans les mains d'ici quelques jours, j'espère pas trop longtemps, pour pouvoir la tester, parce que franchement, c'est vraiment pas mal, et puis ça permet d'avoir vraiment ces exemples-là en live. Mais je pense qu'ils ont été un peu pris par le temps au niveau de la démo et qu'ils voulaient montrer vraiment toute une série de choses intéressantes, quoi. Donc voilà en gros le Fluent Design, ce que ça va regrouper, tous les différents concepts, donc beaucoup plus d'animation, beaucoup plus d'effets visuels, d'effets de 3D, d'effets de 360, je ne l'ai pas montré, mais donc de bouger vraiment à l'intérieur d'une vidéo. Et donc on retrouve ainsi tous les composants dont j'ai parlé, le Parallax View, Navigation View, l'acrylique, et donc ils ont vraiment amélioré un petit peu tous ces éléments-là. Et donc, pour terminer, je mettrai tous les liens dans les notes du podcast également. Mais donc, il y a fluent.microsoft.com, qui est le site peut-être principal sur lequel on peut retrouver tout ce que je viens d'expliquer, avec tous les exemples, des petites animations qui sont faites là en GIF, qui permettent de montrer un peu toute la manière dont ça bouge. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, vers quoi Microsoft se situe avec tout ça.
Bah, moi, j'aime beaucoup, mais bon, c'est comme tout, hein, c'est du design, donc il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas, mais moi, j'aime beaucoup.
Ouais. Et je pense qu'ils ont essayé aussi de ne pas casser non plus tout ce qui existait au préalable. Donc, c'est des ajouts par rapport à des composants existants, donc toutes les applications apparemment qui existent, je veux dire, qui sont faites pour l'instant, on rajoute des options, des propriétés où on les englobe d'une nouvelle balise pour pouvoir arriver dans ce nouveau visuel. Ils avaient l'air assez... je veux dire, assez attentif à ce genre de choses, quoi, de ne pas casser, pas devoir redévelopper complètement les applications déjà existantes dans le système.
Bah, quand tu vois, par exemple, les applications pour Windows Phone ou même sur Android ou iOS, ce qui fait la différence entre deux applications qui ont les mêmes fonctionnalités, c'est justement cette petite petite touche de design en plus là, qui fait qu'on a envie de l'utiliser, l'application.
Ouais.
Parce que il y a des petites animations, c'est lisible, c'est clair, et c'est ce qui fait que l'application est beaucoup plus sexy. Et même si fonctionnellement parlant, il y a la même chose ou voire même moins.
Et c'est vrai que moi j'ai souvent des commentaires parfois de personnes qui utilisent d'autres applications comme tu dis dans de l'Android ou souvent c'est plus de l'iOS et qui me disent bah, elle est plus jolie là-bas parce qu'il y a, c'est vrai qu'il y a l'aspect peut-être parfois simplicité que moi j'aime bien au niveau de ex-Windows Phone, mais en tout cas l'utilisation, bah, si on a quelque chose de plus agréable, de plus joli, c'est toujours quand même mieux, quoi, ça c'est clair. Donc voilà. Voilà ce que j'avais à dire sur ce sujet. Avez-vous d'autres points à discuter ?
C'est simplement une mise à niveau pour moi au niveau du design.
Ils ont tout à fait pas
rattrapé, mais ils sont réalignés par rapport au reste. Parce qu'il n'y a rien d'extrêmement effet waouh, c'est beau, mais ça existait ailleurs. Bon, oui. Après, Microsoft a quand même amené le flat, hein, quand même. Enfin, je trouve qu'il a revisité le flat avec à l'époque, hein, il y a quelques années. Après, il y a Google avec Material Design qui ont repris quelque part l'idée et passé un cran au-dessus. Le iOS se sont alignés après à mettre du flat partout aussi, puisqu'ils étaient dans un design totalement différent. Et là, maintenant, je trouve que voilà, c'est un alignement des choses, en fait.
Ouais, je suis d'accord.
C'est bien, c'est sincèrement.
Ouais, ça part dans le bon sens. Maintenant, c'est vrai que peut-être l'intérêt, c'est que ça soit fait par Microsoft et que ce soit intégré dans le système, donc avec peut-être les options de j'active, je désactive en fonction de que ce soit des perfs ou autre chose. Ça peut être aussi bien, quoi. Maintenant, c'est vrai que ça existe peut-être déjà dans d'autres frameworks qu'on vient rajouter et qu'on vient gérer au-dessus. Bah, ici, géré par le système en lui-même, c'est toujours plus intéressant.
Et puis avec les Windows Template Studio, on pourra l'intégrer dans nos applications en un tour de main.
Voilà. J'espère.
On va faire clic.
Alors, j'ai regardé, hein, ce n'est pas un Navigation View, hein, dans le template, c'est pas du tout ça.
C'est encore un autre.
C'est le truc natif, je ne sais pas lequel, mais c'est pas le Navigation View.
Ouais.
C'est un Split View, je ne sais plus quoi.
Ah oui, c'est ça, oui. C'est celui qui était défini, enfin qu'il fallait composer. Ouais, c'est ça, composer. Il y a une chose par contre qu'il faudrait que je pose à David notamment, c'est de voir par rapport à UWP Community Toolkit où ça se situe. Parce que notamment ça, Navigation View, il y a un peu de redondance par rapport à ce qui existe. Donc est-ce qu'il va y avoir une fusion entre les deux ? Les autres éléments graphiques, je pense qu'ils vont pouvoir venir se rajouter sans trop de problèmes, puisque c'est des options supplémentaires sur les composants. Mais il y a parfois un peu de redondance, je trouve. Donc je ne sais pas.
Non, je pense que mon point de vue, c'est que le burger menu, par exemple, de l'UWP Toolkit, faut l'abandonner, clairement. Par contre, les autres outils, non, mais je veux dire, ou alors il va être amélioré et puis mis de côté, finalement. Mais au moins, c'est utilisable tout de suite, ça.
Ah oui, tout à fait.
C'est l'avantage.
Ah oui, et surtout qu'ici, je suppose que celui-là aussi, mais en tout cas certainement les effets graphiques, mais je suppose que le Navigation View aussi, ne sera utilisable que dans la prochaine version de Windows. Donc pour les applications existantes, et même si on les développe dans 6 mois, ça limite quand même un petit peu. Il faut que tout le monde ait fait une migration de son PC ou une mise à jour.
N'oublions pas que l'UWP Toolkit a maintenant 1 an, et dans un an, quand ça sortira, tu as quand même 2 ans d'utilisation où tu as un outil clé en main et qui fonctionnera après coup aussi. Donc c'est aussi un gros avantage.
Oui, mais je me dis, ils auraient pu dialoguer entre eux et peut-être utiliser celui de l'UWP Toolkit pour pouvoir ne pas en refaire un. C'est peut-être, hein, c'est juste le nom qui a changé et que c'est peut-être le même, ça je ne sais pas. Mais...
Ah, je ne sais pas.
Tu vois ? Ça aurait été bien, quoi.
Mais ce n'est pas grave, tu pourras quand même l'utiliser à l'infini si tu l'as déjà dans une application.
Ah oui, tout à fait, oui, ça c'est clair. Ouais. Oui, on ne casse rien.
Mais moi j'aime bien aussi parfois quand c'est natif.
Oui.
Au système, au framework. Il y en a pour tous les deux. Voilà.
Je vous propose, s'il n'y a pas d'autres points à discuter, de passer à la dernière rubrique, peut-être pour aujourd'hui, les actualités. Les fameuses actualités habituelles de Richard et de tout le monde, parce que je pense que tout le monde a participé aujourd'hui à pouvoir compléter ça. À tout de suite. Voilà, nous allons passer, mais parce qu'on a déjà fait quand même pas mal de nouveautés par rapport à ce qui existe au niveau de la build, bien qu'on n'a pas tout passé en vue, loin de là. Parce qu'il y avait, combien il y avait de sessions, Christophe? Plusieurs centaines, hein?
Des sessions 288.
Ah ouais, c'est ça, bah ouais.
Donc, en
c'est
gros, rien hein, voir ça, je compte en vitesse.
Ouais, ça fait quand même déjà pas mal de choses à voir, hein. Si on considère que c'est une heure chacune, ça fait un paquet de temps à devoir passer.
Puis ça va vite, une heure, hein, quand tu es dans une session, pouf, 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 faut qu'il y ait du pâté, hein.
Ouais, ouais, ouais. Alors, dans les petites actualités, on mettra encore une fois tous les liens sur, dans les notes de l'émission, comme d'habitude. Mais donc, une des premières infos que j'avais vu passer, que j'avais pu relayer à l'époque, c'était, je trouvais ça intéressant, il y a un site qui s'appelle git-school.github.io/visualizing-git, qui permet de visualiser en fait toutes les étapes qu'on fait lorsqu'on veut réaliser des commandes Git, lorsqu'on veut former quelqu'un à Git. Donc si on veut faire, je sais pas moi, un Git clone en mettant le nom d'un repository, puis qu'on veut faire un checkout pour récupérer le code, qu'on veut faire des branches, qu'on veut faire des fusions, des pull requests, etc. Donc on peut taper toutes les commandes et on voit automatiquement la hiérarchie des commandes qui apparaissent avec l'organigramme, je vais dire, la structure de tout ça avec les différents commits qui sont mis en place. Donc quand on doit expliquer quelque chose, expliquer du Git à quelqu'un, c'est toujours pas mal. Donc voilà, c'est pas plus que ça, mais je dirais que c'est toujours intéressant pour pouvoir former quelqu'un à Git.
D'accord. Tiens, la build, au fait, si vous voulez tout savoir pour la build qui vient de se terminer, il y a eu deux sites intéressants. Il y a eu dev.microsoft.fr/build où là il y avait toute notre aventure, mais faut pas oublier que devops.be, un site assez connu ceci dit, /build-2017 a aussi a aussi recentralisé un petit peu les différents podcasts et émissions qu'il y a eu là-bas. Donc voilà, il y a 5 podcasts en tout et pour tout.
Ouais, 3 journées, des journées avant, des journées après. Et je l'ai dit au début, mais je le redis, il y a Lifetile aussi qui avait relayé l'information et donc ils ont remis également ça dans leur flux de podcasts.
Mais ça a bien marché, hein. Il y a eu plus de 11 000 maintenant, écoute, c'est pas mal.
Ouais, ouais,
c'est
tout, sympa. Tout site confondu, c'est ça?
Oui.
Ah ouais. Ouais, c'est bien. Ouais, c'est intéressant. Hein. C'est en français déjà, donc c'est évidemment pour nous beaucoup plus facile. Et puis ça permet d'avoir une vue comme ça, toujours moi dans la voiture en général, donc c'est cool.
Et la prochaine fois maintenant qu'il y aura un podcast comme ça organisé par MS, ça sera, enfin organisé, co-organisé, ça sera à Microsoft Experience qui aura lieu en octobre.
Ah oui, comme l'année dernière, quoi. Ils vont relancer la même idée.
Comme l'année dernière, voilà, tout ouais, à c'est fait. Bien.
Parfait. Alors, autre petite news en passant, c'est aussi présenté d'ailleurs, je pense, à la build lors de la keynote, si je me rappelle bien, par Scott Hesselman. C'est l'intégration dans Azure de ce qu'ils ont appelé le Azure Cloud Shell. Donc, c'est-à-dire un shell interactif, donc en deux mots, dans le site web, dans le portail web où on fait d'habitude la création des sites, des bases de données, de tout ce que vous avez et que vous faites en création en faisant des clics-clics et des remplissages de formulaires, vous allez pouvoir faire tout ça, mais par ligne de commande. Donc, si vous avez soit un collègue, soit vous retrouvez un tuto sur Internet qui vous explique comment faire pour créer votre process ou le configurer, vous avez des lignes de commande, comme en ligne de commande DOS. Je pense qu'au départ, c'est plus du bash qui est placé, mais ça va bientôt arriver sur PowerShell aussi. Donc, un shell interactif accessible dans le navigateur. De mémoire, je pense que la première fois qu'on l'active, donc il y a un petit bouton en haut d'Azure, il va vous demander de l'activer, ça prend quelques secondes, et puis vous avez une fenêtre DOS qui apparaît, et vous faites tout ce que vous voulez, des dires pour voir le contenu des répertoires, et jusqu'à la création des commandes.
Tiens, t'as fini ? Pardon ?
Oui.
En parlant d'Azure, là, avant, je voulais présenter aujourd'hui les Cortana Skills, mais ça m'a pris le chou parce que le timing qui m'était imparti était un peu serré. Et j'ai créé un bot, tout ça. Donc, en fait, effectivement, sur Azure, j'ai longtemps que je n'avais pas été. C'est super bien maintenant, Azure. Hein. On voit qu'ils ont des fonds. Hein. Et mais c'est vrai que ça a été super bien à créer un bot. Franchement, en quelques clics, tu réalises ça très, très facilement.
Avec Office, en fait, je pense que c'est une des sections les plus productives de Microsoft, hein, je crois.
Ouais, il semble. Hein. Ah ouais. Et qu'est-ce que j'allais te dire comme bêtise? Et du coup, après, tu pouvais connecter ton bot sur différents trucs, dont Cortana. Il y avait aussi, traditionnellement, le Skype, une interface web, etc. Et en cherchant comme ça, j'ai vu qu'il y a un gars qui partageait pour tester des bots. Alors, je suis pas du tout spécialiste, mais il y aura le lien, vous irez voir. Un truc pour tester ses bots avec un Microsoft Fake. Donc en fait, ça rajoute une sorte de. Dans ton code, tu vas avoir un dossier fake et puis différentes balises. Bref, ceux qui sont intéressés à ça, bah, allez voir un petit tour sur ce blog, hein, cette page avec le projet qui est sur GitHub. Donc ça peut être intéressant pour les spécialistes de bots. Ça a l'air d'être pas mal du tout. C'est tout neuf et ça vient de sortir.
Ouais, mais c'est bien. Et je vois que c'est avec Donovan Brown qui est une des personnes, un des responsables, je pense, de tout ce qui concerne Team Services, VSTS et les builds à ce niveau-là, donc la construction de projets en VSTS. Et
il était, c'est un PM de chez MS, tout à fait, oui.
Ouais, c'est ça. Il était à Techorama, donc qui est un événement, ici c'était à Anvers, je pense, donc en Belgique, je crois que c'était la semaine passée, pour venir faire une présentation.
D'accord, bah, il y avait aussi le monsieur en polo rouge, non?
Ah oui, il y a Scott Guthrie qui faisait la keynote, je pense. Ouais, tout à fait.
Ouais, tranquille. Ouais.
Alors, juste deux petites infos en dernier. Le premier truc, ça, je trouvais ça pas mal, intéressant, c'est Brian Harry, au niveau de MSDN, donc au niveau de Microsoft, a publié un article dans lequel il présente que Microsoft dispose maintenant du plus gros repository Git de la planète, donc du monde, et notamment... Comment c'est arrivé ça? C'est en faisant l'intégration de tout le code source. Donc apparemment, il y a quelques mois maintenant, ils ont intégré tout le code de Windows dans Git, alors qu'avant, ils étaient, je suppose, sur TFVC, donc dans Team Foundation Server. Et ils sont passés toujours dans Team Foundation Server, mais sur repository Git. Et donc, ce qui me trouvait intéressant, c'était juste pour voir un peu la taille de ce que ça représentait. Et donc, ils expliquent que tout ça, c'est un code qui est globalement de 3,5 millions de fichiers. Juste pour du code source, hein. Dans lequel ils ont à peu près, ça fait 300 gigas de code source, quoi, de données. Ça représente tout ça, c'est géré par 4000 ingénieurs. Ils font des builds automatiques, et il y en a à peu près 1760 tous les jours qui sont effectués. Et tout ça, ça représente 440 branches. Alors moi, quand j'ai déjà deux branches ou trois branches à gérer, c'est parfois déjà le casse-tête, alors j'imagine pas comment ils font. Donc c'est quand même, je trouve ça quand même impressionnant, la quantité de la masse d'informations pour pouvoir organiser tout ça. Tout ça pour dire aussi que TFS et VSTS, la version online, elle est quand même suffisamment robuste apparemment. Et ils ont des petits sondages, ils mettaient des petits sondages également, ils interrogeaient des personnes pour voir, des ingénieurs chez eux, pour voir s'ils étaient satisfaits de Git, oui, non, etc. Et donc globalement, puisqu'il met l'article, c'est quand même que globalement ils sont assez satisfaits de ça aussi. Donc voilà, et peut-être juste dernier point, c'est pour ceux qui sont aussi proches de la Belgique, du côté de Charleroi, c'est le 2 juin, donc c'est vendredi prochain, il y a ce qu'on appelle la journée agile, qui est organisée par des amis maintenant, et j'ai l'occasion moi d'aller faire un petit speech là-dessus avec Adrien Clairbois, qui était venu aussi dans un des DevOps tout au début, et on va parler aussi toujours de VSTS, de DevOps, ce genre de choses, donc juste pour info, celui qui se trouve dans la région, n'hésitez pas, je ne sais pas s'il reste encore beaucoup de place, mais je pense qu'il en reste encore quelques-unes, mais plus énormément. Je pense qu'on sera 300 ou 400 visiteurs à peu près. Et donc voilà, ça s'organise le vendredi 2 juin, toute la journée, dans la région de Charleroi. Et vous voulez plus d'infos, c'est journéeagile.be.
C'est génial, les journées agiles, sincèrement. Si vous pouvez y aller, moi j'y étais, j'ai vraiment, vraiment, vraiment apprécié. Ouais. J'y vais pas là, j'y avais été quand c'était à Mons.
Ouais, je me demande si on s'était pas rencontré là-bas, une des premières fois.
Ah bah si, tout à fait.
Ouais. Ouais, je pense.
C'était génial.
Il y a quelques années, 2 ans, 3 ans. Ouais.
Plein de super speakers. Il y avait un gars, je ne sais plus, c'est Voitu, je ne sais plus comment.
Pas bien, lui.
Un peu comme ça. Non, génial.
Il est pas bien. Mais il y a, je crois encore, je pense que c'était comme la fois passée, il y a 4 salles en parallèle, ouais. 4 tracks en parallèle. Quelques-unes, mais très peu en anglais. Et la grosse majorité sont en français. Donc il y a une keynote, et puis chacun vient faire son petit speech. Et... il y a tous les sujets. Donc c'est l'agilité.
Charleroi, c'est un petit peu plus loin de la frontière là. Ça, on est.
Ouais, Charleroi, ouais, c'est pas très loin. Hein. Il faut, je dirais, une petite heure peut-être de la frontière.
Il y a des Gilles aussi à Charleroi alors.
Il y a des Gilles aussi. Bah, il y a des Gilles partout. Hein.
Non, ah non, ils sortent pas souvent de leur pays déjà.
Ah non, les Gilles de Binche, ça c'est que à Binche. Ça, ils peuvent pas sortir de Binche, la ville de Binche.
Mais là, on est à Charleroi.
Voilà. Et là, on est à Charleroi. D'accord. Ils en ont aussi, mais je sais pas s'ils peuvent s'appeler Gilles.
Et Denis, il y en a plein qui ne doivent rien comprendre à ce qu'on
raconte. C'est le folklore. Hein. C'est le carnaval de la Belgique. Bah, vous irez voir. Hein. J'irai voir sur binge.be, je suppose. Ça doit être la ville.
Et
vous
devez avoir l'exposition.
Voilà.
Il n'y a pas de S, ce n'est pas le prénom.
Donc voilà, bon, on a fait un peu le tour, je pense, de tout ce qu'on voulait dire cette fois-ci, messieurs. Avez-vous d'autres remarques, d'autres annonces à devoir faire aujourd'hui ?
Ben moi, dès qu'on pourrait avoir un peu plus d'infos, j'aimerais bien qu'on reparle, on fasse la même chose, mais qu'on puisse aller plus loin sur, par exemple, le OneDrive on demand, le Cloud Power Clipboard. J'aimerais bien qu'on puisse préparer et qu'on fasse une émission où on va expliquer comment on fait dès qu'on aura un petit peu plus de contenu. Ça serait sympa. Enfin, déjà, ça me plairait de le préparer, mais en même temps, que je pense que ça peut intéresser plein de gens.
Ouais,
comme
non,
la timeline, comment on peut s'y connecter, les adaptatifs. Cards, etc.
Bah ici, on a pris trois sujets, mais c'est vrai que, comme on disait, 280 sessions, ça fait pas mal de sujets, donc je pense qu'il y a moyen de remplir encore pas mal de
ça DevOps. En fait quelques-uns, quoi. Voilà.
au moins jusqu'à l'année prochaine, au prochain build, où ils vont encore nous en rajouter 280.
Parce qu'actuellement, comme Microsoft Graph, c'est vrai que c'est des choses intéressantes. Ouais. Dans n'importe quel type d'application, il sera intéressant de s'y connecter. Mais actuellement, le Graph existait d'Office 365. Mais moi, je suis curieux. Alors, j'avoue qu'entre nous, je ne connaissais pas le Graph auparavant. Hein, je ne suis pas spécialiste de l'Office 365, loin de là. Mais est-ce que ça va rester chez Office ? Est-ce que maintenant, ça va être intégré dans Windows ? Comment ça se passe cette chose-là, c'est des trucs qui m'intéressent en fait aussi.
Ouais, c'est une des bonnes questions parce que je suis dans le même cas que toi, je connaissais pas non plus, enfin de nom, mais sans plus. Donc,
c'est assez facile. C'est comme un peu quand on se connecte au Graph de Facebook, quoi. Tu as une sorte d'arborescence et puis tu vas te balader où tu veux, tu récupères un peu plein d'infos liées. Mais pour la timeline de Windows, comment ça va fonctionner? Quelle différence on fait entre Windows Timeline et puis les Adaptive Cards? Est-ce que c'est la même chose? C'est plein de questions où quand tu sors de la bulle, tu as eu tellement d'infos. Allez, il faut faire un peu le tri de tout ça et puis bien ranger tout ça à nouveau, quoi.
Ouais, c'est clair.
Plein de choses qui m'intéressent.
Non, on va essayer de préparer ça pour la prochaine fois. Hein. S'il y a des autres sujets aussi d'ailleurs, hein, si tous les auditeurs qui sont en train de nous écouter maintenant ont des sujets qui les intéressent, on peut peut-être essayer soit nous d'y passer un peu de temps, comme tu dis, soit même de trouver des gens qui ont déjà passé du temps et qui peuvent venir nous expliquer ça.
Ben voilà.
Ouais. Ok, et comme d'habitude, si on veut vous retrouver ou vous contacter, quel est le moyen le plus simple pour toi, Richard?
Toujours mon compte Twitter, C2I Clark.
Ok, parfait. Et pour toi, Christophe?
Tosnet1 sur Twitter, toujours. Très pratique.
Pas 2, hein. 1.
Non, comme je l'ai dit, le 0 était pris.
Ouais, c'est vrai. T'as bien raison.
Ouais, VB6, c'est d'index 1.
C'est ça, oui, c'est ça, en plus.
La grande classe.
Et pour ma part, même chose, Twitter, @DenisVoituron, en un mot, sans espace, sans rien, et vous pouvez me retrouver là-dessus aussi. Sinon, vous allez sur devapps.be et vous allez retrouver une photo de nous avec nos coordonnées, donc c'est peut-être encore parfois le moyen le plus simple.
Ou vendredi prochain à la journée agile.
Ouais, voilà, tout à fait. En tout cas, Christophe, t'es le bienvenu, toi t'es plus près, peut-être Richard c'est un peu plus loin toi pour venir, mais t'es le bienvenu aussi. Hein.
Ça va être un peu tendu là.
Un petit avion et puis hop là.
Oui,
c'est vrai, en plus il y a l'aéroport à côté.
Oui, oui, tout à fait. Côté de Charleroi, il y en a un, oui.
Biarritz Charleroi, ça n'existe pas encore.
Oh, on va trouver, on va en faire un.
On est fort, on va aller.
Avec 15 correspondances.
Voilà. Ok, à bientôt. Bientôt tout le monde, en tout cas. Merci beaucoup.
Salut.
Salut. Au revoir.